Manuel Valls attendu demain en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer va rester une semaine avec un programme entre visites dans les trois provinces et négociations sur l'avenir institutionnel. Un séminaire consacré au pouvoir d'achat et à la structure des prix, organisé par le gouvernement ce matin, il doit permettre d'aboutir à un premier train de mesures concrètes dans les prochaines semaines. 55 tonnes de produits distribués en 3 mois aux personnes en difficulté, la Croix-Rouge arrive au bout de sa campagne de distribution. Emmanuel Macron s'envole ce week-end pour Washington, le président de la République va essayer de faire entendre la voix des Européens sur le dossier ukrainien. Améliorer la réforme des retraites, les partenaires sociaux doivent faire des propositions pour rendre le système plus performant. Malgré la réforme, il reste déficitaire. Et puis en sport, coup de tonnerre pour Victor Wembanyama. La saison du basketteur français en NBA est terminée en raison d'une thrombose veineuse profonde à l'épaule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra comme chaque vendredi avec le magazine Transparence. Elisabeth Noir, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera aujourd'hui le président du gouvernement.
Oui, c'est le président du gouvernement, Alcide Ponga, qui sera notre invité dans le magazine Transparence au lendemain de sa déclaration de politique générale. Alors, quelle est la philosophie de cette déclaration? Quelles sont les mesures essentielles qu'il faut en retenir? Et comment le gouvernement pourra-t-il les mettre en œuvre? On en parle avec Alcide Ponga, que nous retrouvons d'ici une demi-heure, juste après votre journal, Jean-François.
Et l'autre rendez-vous du vendredi, c'est évidemment à 16h45, le Club politique Radio Rythme Bleu.
Et dans le Club politique ce soir, nous analyserons bien sûr la délégation de politique générale prononcée hier par Alcide Ponga. Et puis nous interrogerons sur la visite de Manuel Valls, sur ce qu'il faut en attendre, à la lumière notamment des déclarations que le ministre des Outre-mer a faites ces derniers jours. L'occasion aussi de parler de la réunion publique des partisans de la France et de la lettre ouverte à Manuel Valls qu'ils viennent de publier en amont de cette visite du ministre des Outre-mer. Un club politique qui, rappelons-le, débute cet après-midi à 16h45.
Le ministre des Outre-mer arrive donc demain en Nouvelle-Calédonie pour cette visite d'une semaine. Après les discussions bilatérales qui se sont déroulées à Paris, Manuel Valls vient poursuivre les discussions, parler avec tous les Calédoniens et engager des négociations. Il débutera son séjour demain matin à 10h par une cérémonie de dépôt de gerbe à la Croix de Lorraine du Mont-Coffin. Il se rendra ensuite au Sénat coutumier. À midi, Manuel Valls sera à la brigade de Ploum pour rendre un hommage au gendarme Nicolas Molinari qui a été tué au premier jour des émeutes de mai. Le ministre s'envolera ensuite pour Ouvéa, Nicolas Legrand.
Oui, et au menu de cette visite à Ouvéa, un hommage à la brigade de Fayaoué et un échange avec les gendarmes. Manuel Valls se recueillera ensuite devant le mémorial des 19 et il s'entretiendra avec le président de la province des îles, Mathias Ouaneux, et rencontrera les maires des 3 communes des îles. Dimanche, le ministre des Outre-mer se rendra à la brigade de gendarmerie de Saint-Michel où il remettra des décorations. Il ira ensuite sur le site de Kenuin pour constater les dégâts avant de partir sur la côte ouest. Il va y visiter une exploitation agricole à Moindou et une ferme aquacole à Bourraquet. Lundi, le ministre des Outre-mer sera à Nouméa pour une série d'entretiens avec les représentants des institutions et il tiendra au Congrès une plénière de méthode. En soirée, il échangera avec le monde économique. Puis mardi, Manuel Valls partira pour la province nord avec la visite du lycée Michel Rocard à Pointe-Boute et la visite de la mine Copéto. Il visitera également le RSMA de Koumac et il se rendra à Tiendanit sur la tombe de Jean-Marie Tchibaou. De retour à Nouméa, il rendra hommage à Jacques Lafleur au cimetière du 4e kilomètre et en soirée, il dînera avec des jeunes Calédoniens.
Et à la veille de l'arrivée du ministre des Outre-mer, les partisans de la France adressent une lettre ouverte à Manuel Valls, un document de 5 pages qui rappelle les positions qu'ils ont exposées lors des discussions bilatérales. Les loyalistes et le rassemblement précisent les éléments qu'ils défendront dans les négociations en fixant plusieurs lignes rouges. Ils écrivent que sans la fin du gel du corps électoral et sans le maintien sans équivoque de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, aucun accord ne sera signé par les loyalistes et rassemblement LR. Les partisans de la France présentent également leur projet de fédéralisme territorial. Ils estiment qu'il est nécessaire de revenir à l'esprit de Matignon et de redonner aux provinces le rôle central qui doit être le leur, en leur renvoyant des compétences gérées localement. Et ils affirment que sans ce retour à l'esprit de Matignon et l'octroi de compétences élargies aux provinces, aucun accord ne sera signé par les loyalistes et le rassemblement LR. Dans cette lettre ouverte au ministre des Outre-mer, les partisans de la France appellent aussi à sauvegarder, reconstruire et relancer l'économie calédonienne. Et ils indiquent que sans ces engagements économiques et financiers, aucun accord institutionnel ne pourra prospérer car la Nouvelle-Calédonie serait alors condamnée à la misère économique.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Pensez-vous que la visite du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, va permettre d'avancer de façon significative dans la recherche d'une solution pour l'avenir institutionnel? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier. 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il ne faut pas aller plus loin dans la suppression des protections de marché. Ils ne sont que 9% à être d'un avis contraire. Soutenir le pouvoir d'achat des Calédoniens, c'était l'objectif d'un séminaire qui était organisé ce matin par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il s'est déroulé à la station N, Nicolas.
Oui, le gouvernement qui a réuni le monde socio-économique ainsi que des associations de consommateurs pour dresser un état des lieux de l'évolution des prix et identifier également les leviers et les mesures possibles pour lutter contre la vie chère. Écoutez Christopher Gigès, le membre du gouvernement en charge notamment de l'économie.
Oui, c'est extrêmement important et c'est surtout très important de le prendre en amont. Plus généralement, on fait des réunions sur la vie chère quand il y a des manifestations ou quand il y a des demandes. Là, on est vraiment en amont du sujet. On a une volonté de faire un constat partagé avec l'ensemble des acteurs économiques, avec l'ISE qui vient présenter, l'autorité de la concurrence, la direction des affaires économiques, les différentes données qu'ils ont. Mais ce constat partagé doit mener à des actions partagées par la suite. Différentes réunions se tiendront au cours du mois de mars et une présentation d'une stratégie pouvoir d'achat et prix à la fin du mois de mars. On est dans une situation où on a des personnes qui ont perdu leur travail en Nouvelle-Calédonie et on a des prix qui augmentent dans certaines grandes surface, que ça soit justifié ou injustifié. L'idée est justement de pouvoir en parler, de voir comment on peut agir sur ça, mais les actions doivent être concrètes. Une liste de thématiques a été définie et courant mars, on les abordera de manière pragmatique, comme l'a dit le président du gouvernement lors de sa déclaration de politique générale, et on mènera une première liste d'actions à la fin du mois de mars sur la fiscalité, sur les salaires et sur la question des monopoles.
Une première réunion de travail qui donne donc le ton pour Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA qui fait partie de l'intersyndicale Vichère.
La méthode, elle convient dans la mesure où tout le monde a été associé, notamment ce matin, donc on a pu avoir des interventions intéressantes de l'ISE, de l'autorité de la concurrence, de la DAE. Les bilans sont là, il faut passer aux actes, hein. C'est ce que nous on attend parce qu'il y a une réelle attente de la population, hein, notamment en matière des prix. Le consommateur a de plus en plus de mal, notamment en s'alimenter. On tire la sonnette d'alarme, hein, dans un contexte de chômage partiel, de chômage total, de crise qui dure. Il faut absolument donc réagir en matière de prix. Donc on est favorable donc à cette initiative et nous, comme d'habitude, on va participer de manière active à tous ces travaux.
Et après cette réunion servant à dresser les constats, les participants ont acté de se retrouver très prochainement en atelier, dont les thèmes ont été définis ce matin, comme le retour à l'emploi, les salaires ou encore la structure des prix dans la grande consommation, et enfin les protections de marché et l'amélioration de la concurrence.
Et à propos de prix, les soldes d'été débutent demain. Elles vont durer 4 semaines, au cours desquelles les clients pourront profiter de promotions et de prix cassés. À Nouméa, les commerçants se préparent depuis plusieurs jours à sortir leur fin de série, comme à Chambala en centre-ville, où l'on profite surtout de la période des soldes pour déstocker les produits invendus. Isabelle est la gérante de l'enseigne.
Le but, c'est de déstocker. Bah, déjà, on essaie de faire plaisir à nos clients, réellement, parce que c'est une période où on peut le faire. Et puis, oui, de déstocker, parce que souvent, on n'a plus toutes les tailles à proposer aux clients. Je vais avoir du S, mais j'aurai plus le M et le L, mais j'aurai du XL. Pour nous, c'est compliqué au niveau de la gestion, déjà. Et puis, voilà. C'est un produit qui a fait sa saison. C'est ce qu'on appelle un peu nos fins de série. Il repart à un prix plus petit parce qu'on ne peut pas proposer toutes les tailles et toutes les couleurs.
Cette année, le pouvoir d'achat des Calédoniens a diminué. Alors certaines boutiques ont décidé de s'adapter au porte-monnaie de leurs clients en élargissant leurs soldes. C'est le cas de la boutique Eliante en centre-ville, explique sa gérante.
Oui, on fait les soldes et cette année, on a décidé d'ouvrir un peu plus à d'autres marques de soldes puisqu'on sait que les temps sont durs et que on a envie aussi de faire notre part, quoi. D'habitude, on est assez ciblé sur certaines marques, mais là, on va jouer le jeu sur d'autres choses, des collections assez récentes. Bah, les gens ont besoin aussi de consommer, mais on fait tous attention au budget en ce moment, quoi. C'est ce qui ressort. C'est quand même une période importante, moins que Noël et la fête des mères, par exemple. Mais oui, surtout en ce moment, je pense que les gens cherchent les bonnes opportunités et faire des affaires. Mais on va voir en fonction de la demande. Oui, il y aura certainement plusieurs des marques. Souvent, c'est les 2 premières semaines qui fonctionnent bien et après, ça se calme un peu. Les gens attendent les nouveautés aussi pour la suite.
Les soldes d'été vont donc débuter demain. Elles se poursuivront pendant 4 semaines jusqu'au 23 mars. Il est 11h40, la première pause de ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Vous croyez que ce n'est que dans les contes de fées que les anciennes voitures se changent en Mini ? Vous avez tort. La preuve, jusqu'au 28 février, c'est les jours Very Mini chez Prestige Motors. Et pendant les jours Very Mini, pour l'achat de la Mini de vos rêves, Mini reprend votre ancien véhicule au prix Argus plus 400 000 francs. Une reprise au prix Argus plus 400 000 francs ? Non, non, ce n'est pas un conte de fées.
Alors, quelle Mini allez-vous choisir ? La Mini 3 portes ? La Mini 5 portes ? La Mini cabriolet ? Ou la Mini Countryman hybride rechargeable ?
Eh oui, c'est un grand jour pour s'offrir une Mini. Profitez-en dès aujourd'hui chez Prestige Motors au 6e kilomètre.
Offre valable jusqu'au 28 février 2025 dans la limite des stocks disponibles, voire conditions de concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Urgence, pouvoir d'achat. Vous entendez ? C'est la rentrée ! Mais c'est aussi et surtout l'occasion de participer à notre grand jeu spécial rentrée jusqu'au 23 février pour gagner plus d'un million de francs de cadeaux. Pour jouer, rendez-vous dans votre magasin Hyper U Paytal et remplissez le bulletin de jeu sur l'une des bandes sur place. Jeu sans obligation d'achat, règlement disponible en magasin, tirage sort le 24 février. Suivez toute notre actualité sur notre page Facebook et profitez de nos promos rentrée des classes dans notre catalogue. Hyper U, sortie Paytal Centre.
U, commerçant autrement.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
39 sapeurs-pompiers de Nouméa ont été distingués hier après-midi. La traditionnelle cérémonie annuelle de remise de grades, de médailles et d'insignes s'est tenue à la caserne Lucien Parent, Léana Colombo.
La cérémonie a commencé aux alentours de 17h hier après-midi avec la revue des troupes, avant qu'un hommage ne soit rendu aux soldats du feu morts en intervention l'an passé et aux deux gendarmes décédés lors des émeutes sur le territoire. Ensuite, 39 sapeurs-pompiers ont été distingués. Le commandant Géraldine Bourgoin, directrice des services d'incendie et de secours de la ville de Nouméa.
C'était important, j'y tenais beaucoup, Madame le maire également, et puis on a eu beaucoup d'autorités présentes, je pense que ça témoigne effectivement de tout le monde, de la reconnaissance, de l'engagement qui a été le leur de l'ensemble des sapeurs-pompiers de Nouméa et des sapeurs-pompiers en général en 2024. Alors chaque année, on remet effectivement déjà les grades des jeunes sapeurs-pompiers puisqu'on a une section à Nouméa pour, pendant 4 années. C'est la deuxième section là, qui vient de s'ouvrir. Puis on remet après le grade à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui évoluent tout au long de leur carrière. Et puis nous avons remis également des insignes de chef de centre pour des fonctions qui sont nouvelles par rapport à des officiers qui viennent de prendre ces fonctions en 2024. Et nous avons remis également les médailles d'ancienneté. Donc c'est des médailles d'honneur par arrêté du haut commissaire pour 10 ans, 20 ans et 30 ans de service.
Effectivement, de nombreux élus ont tenu à être présents. Le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, qui a présidé la cérémonie. Le haut commissaire Louis Lefranc, le président du gouvernement Alcide Ponga, mais aussi des représentants des différentes institutions. Une cérémonie particulière cette année et donc un témoignage de reconnaissance pour le haut-commissaire.
C'est quand même le minimum à tous les sapeurs-pompiers de Nouméa qui sont sous l'autorité de Madame le maire. Un témoignage de reconnaissance puisque les sapeurs-pompiers ont été engagés sur tous les sinistres qui étaient essentiellement des exactions qui sont traduites par le feu, par des pillages et qui mettaient les sapeurs-pompiers en intervention en insécurité. Donc, leurs opérations ne pouvaient pas être conçues sans qu'ils soient protégés. Ils sont encore malheureusement aujourd'hui sur des sinistres ponctuels victimes de caillassage. Tout ça est bien regrettable. Et je voulais aussi, par ma présence, leur témoigner ma reconnaissance et leur dire que ce qu'ils ont fait était admirable et méritait d'être salué.
Durant cette cérémonie, 2 insignes de chef de centre et 5 médailles d'honneur d'ancienneté, 1 en bronze, 1 en argent et 3 en or ont également été remis.
L'opération lancée il y a 3 mois par la Croix-Rouge touche à sa fin. 55 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées à plus de 1100 foyers depuis le mois de décembre. Et aujourd'hui, ce sont les habitants de la résidence Siatea à Dumbéa-sur-Mer qui ont reçu leur 3e distribution, Charlotte Coulson.
Une 40aine de colis les attendait au bas de l'immeuble ce matin. Comme le mois dernier et celui d'avant, les familles de la résidence sont venues tour à tour les récupérer. Car c'est le but de cette opération lancée en décembre, soulager le budget des foyers en difficulté pendant 3 mois consécutifs. La livraison a été assurée ce matin par l'équipe dont fait partie Bertil Audibert, bénévole à la Croix-Rouge.
Eh ben nous, on livre aux associations. Là, on est en partenariat avec la SIC. Là. C'est une association des locataires de la SIC et c'est eux qui dispatchent avec les personnes qui sont dans le besoin. On fait des paniers de 1 personne, de 2 personnes, de 3 personnes. Suivant les paniers, c'est différent. En sachant que pour les familles nombreuses, il y a 2 paniers. Là, il y en a 40aine. Donc, il y a du riz, des pâtes, du sucre, de la farine, du lait. et un peu de tout. C'est surtout du sec nous, qu'on fait. Hein. Là, ils sont en train d'être distribués dans la résidence. On peut voir le monsieur, le président, là, qui fait partie de cette association. Il est en train de faire la distribution.
Et une trentaine de familles ont pu récupérer leurs colis ce matin. C'est une opération d'une grande aide pour elles, car beaucoup de personnes ont perdu leur emploi à la suite des émeutes de l'année dernière. Elles se retrouvent maintenant dans une situation difficile. C'était le cas de ces deux résidentes rencontrées ce matin.
C'est bon pour nous parce que ça nous aide. Et puis comme je suis été licenciée, ben ça m'aide beaucoup pour moi et mon fils parce qu'on n'est que deux. C'est toujours les mêmes, le lait, le sucre, le riz, un peu tout. Quoi. C'est bien, c'est pas mal, c'est gentil de leur part. Merci à tous ceux qui ont participé dans les sacs. Un grand merci.
J'ai récupéré un sac, c'est la nourriture de base, mais comme moi je vis seule dans mon studio et puis je ne travaille pas, j'ai une pension d'handicap. Mais voilà, ça nous dépanne aussi. Je remercie beaucoup la Croix-Rouge. Merci beaucoup. Puis ça nous aide aussi parce que surtout quand on paye les factures, après il ne reste pas grand-chose pour acheter la nourriture. C'est cher en ce moment, alors j'espère que ça va bientôt s'améliorer.
Et les dernières opérations de distribution de colis se dérouleront d'ici la fin du mois de février. Au total, 3200 personnes ont pu bénéficier de ces dons depuis décembre.
Une journée pour la promotion de la santé au féminin, c'est ce que proposeront le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la ville de Dumbéa le 8 mars prochain, Léana.
Et ce sera à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. L'année dernière, le gouvernement s'était associé à la commune du Mont d'Or pour organiser l'événement. Cette année, place à Dumbéa. Des actions de proximité seront proposées un peu partout dans la commune. Écoutez les précisions du maire de Dumbéa, Johan Lecourieux.
C'est des actions de proximité, mais aussi des actions qui sont à destination des femmes de tout âge, et sur différents supports, et surtout sur des supports de prévention, sur la santé, sur l'ensemble de la commune, parce que c'est très important d'avoir cette attention des dames. Donc nous sommes très heureux et très honorés de pouvoir célébrer la journée internationale des droits de la femme sur Dumbéa, avec un programme complet, la journée du 8 mars bien sûr, mais aussi un programme très complet avec sur l'ensemble de la commune, qui s'intéresse à différents secteurs tout le mois de mars.
La journée du 8 mars débutera avec l'inauguration à Coutiot du giratoire Olympe de Gouges, grande figure féministe du XVIIIe siècle. Une inauguration, ou plutôt un rappel, puisque ce rond-point porte déjà ce nom. Parmi les autres temps forts, un parcours de dépistage cardiovasculaire et une table ronde centrée sur la ménopause. Une invitation lancée aux femmes, mais aussi aux hommes, explique Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement chargée notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes.
C'est vraiment le message que l'on passe quand on invite à ces événements. On sait que la santé des femmes, c'est important. Une femme qui est en bonne santé, eh bien, c'est un effet positif sur sa famille, ses enfants, son conjoint, mais même les femmes ont besoin aussi qu'on prenne en charge leurs problèmes de santé qui peuvent être particuliers, spécifiques, et qu'on améliore les dépistages. Mais nous, notre message, c'est de dire que la contraception, c'est l'affaire du couple. C'est pas l'affaire que de la femme. La ménopause, c'est aussi une information qui peut être donnée aux hommes et qui peut être connue aussi plus largement dans la famille. Moi, je relie ça aussi à la lutte contre les violences et au respect du corps de chacun.
L'événement ne se limitera pas uniquement à la journée du 8 mars. La veille déjà, une journée sensibilisation sera organisée à la Maison de la Femme à Ponérioin. Tout le mois de mars, un kit première règle sera distribué aux filles inscrites en classe de 6e dans l'ensemble des collèges publics et privés du territoire.
Le tourisme cherche à se relancer après avoir subi les crises Covid et requins. Les violences insurrectionnelles de mai 2024 ont encore fragilisé le secteur. L'an dernier, la Nouvelle-Calédonie a accueilli 59 399 touristes et 191 528 croisiéristes. Des chiffres en fort recul par rapport à 2023, moins 53% de touristes et moins 44% de croisiéristes. Il faut donc désormais rassurer alors que la Nouvelle-Calédonie est toujours classée à risque avec un indice de 3 sur 4 dans de nombreux pays. Julie Laronde, la directrice générale de Nouvelle-Calédonie Tourisme, était ce matin notre invitée à 7h30.
On a tout un travail de restauration de l'image de la destination qui a été forcément détériorée avec une couverture médiatique importante au début des émeutes. C'est essentiel. Remontrer que les atouts de la Nouvelle-Calédonie sont intemporels, éternels. Nous expliquons que les infrastructures touristiques et les sites touristiques n'ont pas été touchés, que les touristes n'ont jamais été pris à partie. La reprise va être lente et progressive. Encore une fois, selon les moyens alloués et également selon la capacité aérienne. On a encore du mal à déterminer une année de retour à la normale. Moi, j'y crois. On avait étudié d'autres destinations qui avaient subi des crises sécuritaires majeures, Fidji, en Afrique notamment. Et donc, on voit que le trafic touristique reprend malgré tout, puisque le touriste ou le client a une capacité d'oubli, en fait, et les différentes actualités mondiales prennent le pas rapidement sur d'autres actualités.
En fin d'année, les croisières ont pu reprendre. La reprise sera progressive puisque le nombre de touchés est estimé en 2025 en baisse de 30% par rapport à 2023. Concernant le tourisme aérien, pour le moment, les chiffres sont tirés par la clientèle métropolitaine.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez-nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Notre page spéciale pour accompagner cette rentrée scolaire avec un chef d'établissement qui nous raconte ses souvenirs de rentrée nous parle aussi de l'évolution de son métier. Écoutez aujourd'hui le témoignage de Pierre-Jean Lung et du lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel du Mont-d'Or.
Le principal souvenir, parce que c'est un peu compliqué d'en avoir qu'un seul, ouais, je pense surtout quand j'étais à l'école primaire au Sacré-Cœur, c'est-à-dire que je me rappelle de mon ancien instituteur, Monsieur Van der Kerkhoff, et je me rappelle parce que c'était quelqu'un de très 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 imposant. Lorsqu'on le regarde un peu avec un œil d'un enfant, et au bout du compte, c'est quelqu'un qui m'a surtout mis en confiance, voilà, et que ensuite, j'étais surtout très agréablement surpris, voilà, de rentrer un peu dans cette grande école, parce qu'on venait un peu de la maternelle en bas de Cluny, on arrivait au Sacré-Cœur à l'époque, là, voilà. Donc voilà, mon principal souvenir avec un enseignant, je me rappelle, à l'époque, c'était pas commun pour nous d'avoir un enseignant homme. Donc un maître, voilà. Donc, c'était ça. Et il nous a surtout mis en confiance, moi-même, je me rappelle. Et voilà, c'est des beaux souvenirs avec Monsieur Van der Kerkhoff. Ouais.
Quelles sont les principales évolutions par rapport à cette époque, maintenant que vous êtes chef d'établissement ?
Alors moi, je suis chef d'établissement maintenant dans le secondaire, et c'est vrai que là, je parlais du primaire. Mais effectivement, si je dois retenir quelque chose, c'est qu'à l'époque, on démarrait déjà un peu plus tard, sur la rentrée scolaire. Ben, l'impression que j'ai, c'est peut-être, alors après c'est vrai qu'il y a une coordination au niveau calendaire, mais c'est que j'ai l'impression qu'on démarre un peu plus tôt, et effectivement avec des conditions où on est dans des situations où les élèves ils ont chaud, c'est voilà, et on finit un peu plus tôt aussi par rapport aux examens. Ben, au niveau de l'enseignement, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, effectivement, hein. Je dirais des adaptations qui ont eu lieu ici en Nouvelle-Calédonie par rapport donc au programme, ça c'est clair. Avec une carte de formation aussi qui a beaucoup évolué. Hein. Je rappelle qu'à l'époque, si on voulait avoir une formation supérieure après le bac, il y en a eu beaucoup qui partaient en métropole. Effectivement, il y a eu cette évolution aussi de la carte de formation, aussi bien dans le secondaire, dans le post-secondaire, l'université. Voilà, donc c'est clair qu'en plus de 30 ans, il y a eu quand même une évolution, des propositions de formation sur le territoire.
Pierre-Jean Lung, le proviseur du lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel du Mont-d'Or, au micro de Kélinda Boiscou.
C'était les pages souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez-nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Et dans un instant, après une nouvelle pause, on évoquera l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Tanéo fait sa rentrée avec vous. Les bus circuleront à partir du lundi 10 février avec des nouveautés. Des lignes adaptées à vos besoins en déplacement, une offre concentrée sur les heures de pointe, le retour des plafonds tarifaires pour un porte-monnaie transport maîtrisé. Retrouvez sur le site taneo.nc le plan des lignes, les horaires et les nouveaux tarifs. À très vite sur nos lignes.
Préparez votre rentrée en toute sérénité avec Toyota Nouméa, Toyota Kone et Toyota Lifu. Le Toyota Raise à partir de 29 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Corolla Cross hybride à partir de 49 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota RAV4 hybride à partir de 55 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota Hilux à partir de 59 900 francs par mois, entretien inclus. Profitez des offres rentrées et roulez en toute tranquillité avec Toyota. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Emmanuel Macron tente de garder un rôle dans la résolution du conflit russo-ukrainien. Le chef de l'État s'envole ce week-end à Washington pour évoquer le sujet avec Donald Trump. Auparavant, il a réuni les responsables des groupes politiques pour faire avec eux le point. Et il a échangé avec les Français sur les réseaux sociaux, ce qui lui a permis de faire plusieurs annonces. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Première annonce, Emmanuel Macron confirme se rendre à Washington ce lundi pour rencontrer Donald Trump avec l'espoir de convaincre le président américain de ne rien céder à Vladimir Poutine. Et pour cela, il a préparé plusieurs arguments.
Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, bah, la Russie, elle sera inarrêtable. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine?
Selon Emmanuel Macron, Donald Trump crée de l'incertitude dans les relations internationales et c'est une bonne chose pour l'Europe qui doit utiliser cette incertitude pour faire plier Vladimir Poutine. Le chef de l'État est d'ailleurs très véhément contre le président russe qui l'accuse de mener une guerre hybride contre la France. Enfin, si l'Ukraine et la Russie signent un accord de paix prochainement, alors Emmanuel Macron ouvre la porte à l'envoi de soldats français en Ukraine pour assurer une paix durable.
Beaucoup d'émotions et de colère en Israël. Le Hamas a remis à la Croix-Rouge le corps des 4 otages décédés pendant leur captivité. Une mère de famille de 32 ans et ses 2 enfants qui avaient 1 an et 5 ans au moment de leur enlèvement le 7 octobre 2023. Ainsi qu'un homme de 83 ans. Colère, car avant de les remettre à la Croix-Rouge, le Hamas a exposé les cercueils sur un podium en présence de centaines de Palestiniens, ce qui a vivement fait réagir le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Nos cœurs sont brisés, mais nos esprits ne le sont pas. Et avec cet esprit, nous ramènerons tous nos otages, détruirons les assassins, éliminerons le Hamas et ensemble, avec l'aide de Dieu, nous assurerons notre avenir.
Et pour rendre hommage aux 4 victimes décédées pendant leur captivité, des rassemblements ont eu lieu à Tel Aviv, mais aussi à Paris, sur le parvis des 260 enfants dans le 4e arrondissement. Certaines personnes ont traversé la capitale pour se recueillir, comme cette femme qui fait part de son incompréhension.
C'est pour marquer notre solidarité, pour témoigner de notre émotion, de notre colère, de notre chagrin, d'imaginer qu'on pouvait atteindre ce point-là, d'horreur à ce niveau-là. C'est juste incompréhensible.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. En métropole, où l'on reparle de la réforme des retraites, la Cour des comptes a remis son rapport au Premier ministre sur les effets de la réforme adoptée en 2023 et qui repousse à 64 ans l'âge légal de départ. Selon la Cour des comptes, cette réforme ne porte pas les fruits attendus puisque le déficit du système de retraite pour 2024 est chiffré à 6 milliards et pourrait atteindre 15 milliards en 2035. Comme il s'y était engagé, François Bayrou a sollicité les partenaires sociaux qui vont donc se réunir régulièrement dans les 3 mois qui viennent pour faire des propositions. Une nécessité est estime Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT.
Les groupes communistes et écologistes dénoncent un texte xénophobe, mais surtout anticonstitutionnel.
Voilà, on va tout de suite écouter Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT.
La réforme de 2023 qui nous avait été présentée comme incontournable, en fait, ne produit absolument pas les effets qui étaient attendus. Et l'idée aujourd'hui, c'est de travailler sur cette réforme de 2023 qui est injuste.
Et parmi les leviers pour rendre le système de retraite rentable, la Cour des comptes propose de travailler sur l'âge de l'ouverture des droits, sur la durée de cotisation et sur leur montant, mais aussi sur l'indexation des pensions. Le Sénat adopte la proposition de loi des centristes pour interdire le mariage des clandestins, un texte qui a reçu le soutien du gouvernement et qui doit maintenant être étudié à l'Assemblée nationale où les débats promettent d'être vifs. Ils l'ont d'ailleurs déjà été au Palais du Luxembourg. Maïhélène Trémollet pour Europe 1.
Les groupes communistes et écologistes dénoncent un texte xénophobe, mais surtout anticonstitutionnel, qui attaque la liberté de mariage, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Pour Mélanie Vogel, sénatrice écologiste, c'est une attaque en règle de la Constitution.
C'est priver d'une liberté individuelle, reconnue par la Constitution, des milliers de gens qui s'aiment, d'une liberté parce qu'ils n'ont pas les bons papiers.
Selon Stéphane Demy, auteur de la proposition de loi, l'objectif est seulement de mieux protéger les mères, l'élu de la Somme qui dit vouloir adapter la loi à l'époque.
En 2003, le nombre d'OQTF prononcés
prononcée était de 20 000 par an. En 2023, ce sont 130 000. Je vous propose donc de faire bouger le curseur de ces bornes.
Pour que la proposition de loi devienne effective, le parcours est encore long. Le texte doit d'abord passer à l'Assemblée nationale et reste sous la menace d'une potentielle censure des sages. Parmi les mesures adoptées par les sénateurs pour éviter cette censure, une obligation aux futurs époux de nationalité étrangère de fournir aux maires des justificatifs de séjour ou encore un allongement du temps d'enquête du procureur en cas de signalement.
Il n'en reste à parler sport pour terminer ce journal. Ce sera dans un petit instant après la pause et ensuite ce sera le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Faites du sport avec la ville de Nouméa.
Rendez-vous ce samedi 22 février de 9h à 15h au stade Pentecôte et à la salle Omnisport de Lanzvata pour une journée à la découverte des pratiques sportives à Nouméa.
Individuelle, collective ou originale, il y en aura pour toutes vos envies.
Profitez de la présence des associations, ligues et comités sportifs pour vous informer, vous initier et pourquoi pas vous inscrire. Retrouvez le programme complet sur nouméa.nc et la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, on sait Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans. Tous les lundis, chez Mobile, doublez vos points conso plus. Et ce n'est pas tout, chaque lundi, Mobile offre à un gagnant ses achats en caisse. Ne manquez pas cette chance. Rendez-vous le lundi dans les stations mobiles participantes.
Mobile Energy lives here.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec d'abord du football, puisqu'on jouait ce matin les barrages de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence, Léo Fichou.
Oui, mais pas de club engagé hein, ce matin, puisque Lyon...
Pas de club
était...
français.
Pas de club français.
Oui, engagé. Oui, oui, oui c'est mieux. Voilà.
De club français engagé ce matin, puisque Lyon était déjà qualifié directement pour les huitièmes de finale de cette Ligue Europa et Nice était déjà éliminé. Parmi les rencontres de la matinée, on notera les qualifications de l'AS Roma, de la Real Sociedad, du Fenerbahçe et de l'Ajax Amsterdam. En revanche, Porto, Galatasaray et Anderlecht sont éliminés. Au prochain tour, Lyon, qui est donc qualifié pour les huitièmes de finale, affrontera soit le Steaua Bucarest, soit l'Ajax Amsterdam.
Encore de l'or cette nuit pour la délégation française au championnat du monde en Suisse en biathlon. Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet ont remporté le relais du mixte simple. Ils ont devancé la Norvège de 6 secondes et l'Allemagne de 8. C'est la 10e médaille décrochée par la délégation tricolore. 5 en or, 5 en bronze en 8 courses seulement. En basket, coup dur pour Victor Wembanyama des les Spurs de San Antonio, victime d'une thrombose veineuse profonde à l'épaule. Le Français ne terminera pas sa deuxième saison en NBA. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur des Spurs qui venait de fêter sa première sélection pour le All-Star Game et qui était le favori pour le titre de joueur défensif de l'année. Et puis on termine avec un mot de tennis. Maxime Chazal est en finale du double du Challenger de Brazzaville au Congo.
Associé à un autre Français, Geoffrey Blancano, ils se sont imposés 6-1, 6-4 ce matin sur la paire, tête de série numéro 2 du tournoi. La nuit prochaine, en finale, ils affronteront les favoris, les Brésiliens Barreiros Reyes et Saraiva dos Santos. Malheureusement, Maxime Chazal, dans le tableau de simple, s'est incliné la nuit dernière en huitième de finale contre le Bulgare Dinko Dinev. Il jouera tout de même la finale du double, donc la nuit prochaine.